territoire et la problématique, donc c'est super intéressant. Première question, s'il vous plaît. Est-ce qu'avant de se diversifier et de s'ouvrir à l'autre, il ne faut pas d'abord se poser d'une base solide en interne pour ne pas se perdre?
Marie, je voudrais une définition du mot superstition, qui me paraît être pris tout de suite négativement.
Troisième question.
Du coup, pour rebondir sur la notion de superstition, comme ça, quand on gouverne les mains, aujourd'hui, selon vous, quelles sont ces superstitions?
Bon, je crois là. Moi, j'aime bien répondre. Enfin, répondre. Je vais réfléchir avec vous, parce que j'ai pas plus la même que vous. Peut-être l'ordre des données, c'est plutôt. Pour répondre à votre première question, est-ce que avant de s'ouvrir à la TNT, est-ce qu'il ne faut pas d'abord conforter son identité interne, un titre? Tout à fait. Enfin, d'abord, je ne sais pas. Là où j'ai un doute, c'est sur le rapport chronologique entre les deux. Pour Spinoza, je vous réponds d'abord pour lui, c'est le cas d'échange, je vous réponds. Mais pour Spinoza, de fait, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, et moi, c'est un des objets sur lesquels je travaille vraiment, parce que je trouve ça passionnant, et il est un des seuls à penser ça à ce moment-là. Pour Spinoza, les États, lui pense surtout à l'échelle de l'État, mais on pourrait vraiment élargir aux églises. Les États ont une identité. C'est un des seuls au 17, en la fin du 17e à penser ça. Qu'est-ce qui fait qu'un État, c'est tel État et pas tel autre? Qu'est-ce qui fait que la France, c'est pas la Thaïlande, c'est pas le Maroc, c'est pas le Portugal? Parce qu'il y a précisément, ça c'est moi que je trouve fascinant, il y a une affectivité particulière des collectivités. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est applicable à l'individu vaut d'une certaine mesure pour les collectivités, en l'occurrence pour les États. Parce que pour Spinoza, un État, c'est un grand individu. Et de la même manière qu'un individu, il a une affectivité particulière, c'est-à-dire une manière d'être affecté, de réagir aux choses, un État, il a aussi un complexe affectif particulier. C'est ce qui fait que, tout simplement, il suffit d'aller dans le pays pour se rendre compte, on ne pense pas que ça fait de la même manière, on ne représente pas les choses que ça fait de la même manière, mais vraiment, une identité, c'est propre, quoi. Et ça permet bien de penser ça. Donc, qu'est-ce qui constitue ce qu'il appelle l'ingenium, hein? L'ingenium, on pourrait traduire ça par caractère, hein? Au sens vraiment qui fait le caractère d'une personne. Hein? Elle est ouverte, timide, enfin. Il y a un ingenium des États. Et qu'est-ce qui construit cet ingenium? Ben, c'est principalement ses lois particulières, sa langue. On pourrait rajouter son histoire. C'est moi qui rajoute, mais c'est cohérent avec le texte. Sa religion. Sa religion. Donc il y a tout un ensemble d'éléments comme ça vraiment, qui constituent l'identité d'un État. Ça, Spinoza ne le dit pas du tout. Hein. C'est pas du tout un penseur de l'État universel, soyons citoyens du monde, pas du tout. Donc il y a parfaitement conscience qu'il y a vraiment une identité de l'État. Le risque, c'est de devoir se replier sur cette identité. Là, vous avez raison de vous toucher quelque chose, enfin je pense que c'est la suite de la question. C'est comme on fait pour maintenir son identité, tout comme en posant des rapports avec les autres. Ben, c'est là où Spinoza est génial, quoi. C'est que, précisément, c'est en entretenant des rapports avec les autres que vous pouvez consolider ce qui fait votre spécificité. Moins vous entretenez de relations avec les autres, plus vous êtes fragile vis-à-vis des autres. Alors d'abord, plus le cas échéant, les vôtres vont être intéressés par l'extérieur, hein, parce que plus vous les entrez leur instabilité d'aller voir ailleurs, plus ils vont y aller. Hein, une loi de base en pédagogie, mais ça marche aussi en politique. Mais en plus, moins vous entretenez de rapport à l'extériorité, plus vous êtes fragile vis-à-vis de cette extériorité, et plus vous êtes passif, hein, plus vous êtes dépendant des causes extérieures, faute de cette espèce de structure interne qui vous maintient vraiment. En revanche, plus vous diversifiez votre affectivité, plus vous entretenez des relations nourries avec les autres, et plus progressivement, vous pouvez complexifier votre structure interne. Et en complexifiant votre structure interne, plus vous êtes apte à résister au changement des circonstances. C'est-à-dire, plus vous êtes apte à vous maintenir dans la tempête des choses extérieures. Et ça vaut pour l'individu comme pour les collectivités. parlé avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience, lire, qui va progressivement, il va structurer son intimité, quoi, il va se constituer une structure interne qui fait qu'à la rencontre des choses, il va de moins en moins se perdre, en fait. Et c'est là que c'est génial. C'est précisément, quand elle est bien faite, quand il est bien fait, ce rapport vraiment nourri avec sérénité, c'est précisément ce qui va faire que vous n'allez pas constamment être ballotté de droite à gauche par l'extériorité. Et que vous allez pouvoir vous maintenir et vous nourrir de cette extériorité sans être transformé de l'intérieur. Est-ce que ça répond à votre question ?
Ah.
Ok. On pourra en reparler après peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que la superstition pour Spinoza ? C'est une définition assez classique pour l'époque. La superstition, je trouverai ça si ça vous intéresse, dans la préface du traité théologique. La superstition, elle se caractérise par l'imagination de liens causaux que l'on ne connaît pas. Alors, dit comme ça, ça va être un peu bizarre, mais en fait, vous allez voir ce qui est clair. Quand on ne connaît pas les liens de cause et des faits qui unissent les choses, les liens nécessaires qui unissent les choses, on les imagine. Quand on les imagine, l'imagination prend la place de la raison. Et qu'est-ce qui se passe quand on imagine des liens ? Eh bien, on unit dans l'imagination des choses qui en fait n'ont aucun rapport les unes avec les autres. L'exemple que prend Spinoza, c'est celui des augures pour les latins. Il m'arrive une crasse et je vois rester un vol de cordon. Faute de savoir quelle est la cause de cette crasse qui m'arrive, que fais-je ? Et bien je lis dans mon imagination, de manière causale, le vol de corbeau et la crasse qui vient de m'arriver, et j'en déduis qu'à chaque fois qu'il passera un vol de corbeau, sûrement il m'accroche à ma table parce qu'il va m'arriver un peu. Non. Qu'est-ce que c'est que la superstition à la base ? C'est un lien imaginaire. Un lien imaginaire qui remplace, qui prend la place d'une connaissance effective des liens entre les choses. Qui non seulement prend la place, mais le fascine en plus. On a beaucoup plus de fascination pour l'imagination que pour la raison. En général, aujourd'hui, encore, j'ai rencontré quelque chose, hein, c'est super chaud, je peux vous dire. En général, mon métier fascine pas les gens. Mais bon, alors que l'imagination fascine, c'est naturel, hein, tout simplement parce qu'elle crée des images. Hein. Si les balles de la réalité, les images, c'est facile. C'est ce que j'entends tout à l'heure quand je disais, téléphone, il ne faut pas vendre des images, quoi. Parce que l'image, c'est facile. Donc, voilà. Donc la superstition à la base c'est ça, c'est créer des liens imaginaires et adhérer de manière passionnelle à des liens imaginaires.
Alors, définition courte de l'imagination.
Alors l'imagination, ça consiste tout simplement à avoir une image d'une chose alors même qu'elle n'est pas. Ah si, si vous imaginez votre épouse, vos enfants, une cruche d'eau, vous en avez pour former une image.
Mais l'imagination permet de trouver par la raison, c'est vrai.
Ah oui, non, de fait, il y a un usage tout à fait positif de l'imagination, ouais. Hein, je trouve qu'il n'y a pas... il faudrait pas croire qu'elle soit de manière univoque négative quand la raison serait de manière univoque positive, pas du tout. Par contre, ce sur quoi insiste Spinoza, c'est que l'imagination, on dit, elle est intimement liée à la réticité. Qu'est-ce que c'est qu'imaginer ? C'est quand j'ai été affectée par une chose, elle produit une image en moi, une image que je pourrais mobiliser même quand elle n'est plus là, cette chose. J'ai été affectée par mon époux, il se trouve que je peux ramener en moi son image alors même qu'il n'est pas en ma présence. Bon, ou je ne suis pas plus fort en ma présence. Bon, mais pourquoi je vous dis ça ? Voilà, vous avez dit là. Mes questions et mes réponses en même temps.
Je défendais l'imagination.
Je sais que c'est l'image,
c'est pas seulement. C'est pas seulement l'image, c'est l'ouverture aux autres. C'est la poésie.
Ah oui, merci. Je viens de. Non, je n'entends pas. Pardon, en fait, techniquement, on arrive à la vie, mais très fatigué. Donc, je n'ai pas toute la pleine possession de mes mots à ce moment. Pourquoi est-ce que je voulais vous dire ça ?
Tu prends la suite.
Non, attends, c'est important. C'est important.
Marie, tu peux peut-être reformuler ce que tu voulais dire.
Superstition, imagination, image.
Bon, ça va me revenir. Les mots. l'imagination n'est pas négative en soi, mais il importe de voir ce qu'elle nous donne à voir. La superstition, d'une certaine manière, elle consiste à se méprendre sur ce que nous donne à voir l'imagination. L'erreur consiste à croire que l'imagination nous fait connaître les choses telles qu'elles sont. Si on fait cet usage-là d'imagination, alors elle est fautive, elle est factice. L'imagination, pour Spinoza, elle se construit dans la rencontre avec les choses extérieures. Donc d'une certaine manière, l'image que je forme des choses, et c'est une citation à la Spinoza, en dit autant sur mon propre corps que sur les corps que je rencontre. L'imagination, c'est le produit de ma rencontre avec les choses extérieures. Donc ça n'est ni la chose extérieure, ni moi tout seul, c'est une sorte de communion, de produit, vraiment au sens mathématique du terme, entre moi et les choses. C'est la manière dont elle m'apparaît à moi. En ce sens, elle est extraordinaire. Parce qu'elle dit beaucoup de la manière dont j'interagis avec le monde. En revanche, elle est factice dès lors que je crois qu'elle me donne à voir la nature même des choses. Qui nous apprend un exemple récurrent, c'est celui de la tête du soleil. Il se trouve que de là où nous sommes, nous voyons le soleil tout petit et qu'on a même l'impression des fois qu'il ne dépasse pas la taille de la flamme d'une bougie. Mon imagination me donne à voir le soleil comme tout petit. Si je prends l'imagination pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le produit de ma rencontre avec le corps extérieur, elle est vraie. Enfin, ça veut dire qu'elle est magnifique en fait. Voilà. Si je considère qu'elle me donne à voir la vérité de la nature même de la chose, elle est factice, elle est fausse. Donc, elle a des usages absolument essentiels. Parce qu'elle nous donne à voir la manière dont nous interagissons avec les choses, mais pas si nous croyons qu'elle nous donne à connaître la nature même du monde. Ça y est, pardon de le délai concernant. Pour ce qui est de votre troisième question, quelles seraient les superstitions aujourd'hui? Bah, là, je vais vous répondre à partir de mon expérience d'enseignante. La plus commune à laquelle moi j'ai affaire vraiment absolument constamment, c'est le complot. La théorie du complot, c'est la superstition contemporaine. Moi j'ai des élèves, j'ai commencé ma carrière dans les mangas, parce que vous connaissez ce quartier, c'est le quartier dit difficile de Lyon. Moi j'ai adoré l'enseigner là-bas, mais c'est parfait, c'est pas évident. Et j'avais des élèves, j'étais fascinée par la violence. Alors, il y en avait partout, donc c'était extraordinaire. Du point de vue anthropologique, c'était fascinant de les voir à ce point fascinés. C'est-à-dire que le complot générait en eux une espèce d'enthousiasme qui avait rien d'autre. Alors, d'une certaine manière, c'est enthousiasmant comme pour ça, parce que, bon, par ailleurs, ces élèves, parfois, mentaient un peu enthousiasme, mais c'était aussi terrifiant. Et en fait, j'ai fini par travailler cette question parce que ça m'a vraiment questionné. Et je me suis dit par mon compte que dans certains cas, pas toujours, dans certains cas, les élèves, précisément, n'avaient plus beaucoup de pratiques religieuses, parfois. Ou une pratique religieuse qui était devenue plus identitaire que spirituelle. Et d'une certaine manière, le complot remplaçait, faisait usage d'une sorte de superstition laïque. Hein? Comment? Parce que de la même manière qu'on crée un lien imaginaire entre le passage des corbeaux et le fait qu'il m'arrive une tuile, et que ma mère s'est cassée la jambe, de la même manière, du fait que c'est la crise, que existe certaines minorités dans un état et qu'il y a un conflit dans un autre que je ne sais pas, on va en déduire que sûrement c'est la cause de cela. J'ai un petit doute pour être honnête sur le grand lien entre le conflit israélo-palestinien et la crise en France. En tout cas, sur les liens immédiats de sa tête. Et par contre, c'est une théorie qui était très mauvaise. Mais y compris des complots beaucoup plus curieux. Mais c'est très très mal. Hein, l'idée que les profs nous tirent des trucs. C'est génial. Moi, les élèves, ils sont uniquement en terminale, en plus. Autant vous dire, j'ai pas grand-chose à leur cacher. Tout ce que je leur cache, je le trouve. Non. Mais là-dessus, il y a une forme de fascination pour ça. Pourquoi? Parce que la superstition, c'est l'imagination du secret. Le secret, c'est fascinant. Il n'y a plus beaucoup de mystères dans le monde aujourd'hui. En tout cas, le mystère n'est plus au cœur de l'existence. Hein. Peut-être, d'ailleurs, on peut faire l'hypothèse que c'est lié précisément à ce recul de la pratique religieuse qui fait que l'interrogation du mystère spirituel s'éloigne. Hein. Et faute de ce mystère, on
d'autres questions? Il nous reste une demi-heure. Oui, Laurent. Laurent, et après, il y a le jeune Laurent.
Oui, moi j'ai un grand regret. C'est que ça ne dure qu'une soirée. J'aurais bien aimé qu'on fasse un week-end complet sur le sujet.
Moi aussi, avec la vie.
En tout cas, merci d'être là. Et sans reprendre tout ce que vous avez dit, c'est tellement dense, il faut bien, et vous l'avez dit d'ailleurs à juste titre dans l'introduction, il faut bien se dire que Spinoza est un philosophe, remarquable, mais un philosophe. Ce n'est pas un historien, ce n'est pas un sociologue, parce que du point de vue historien, il dit des bêtises, du point de vue sociologue, il dit des bêtises, mais il faut le resituer à son époque. Il a des messages à faire passer par rapport à la société dans laquelle il vit. Et il va faire une démonstration par rapport à ce message. Donc il va choisir, on a pris l'exemple, de Moïse et de sa société, en éliminant les paramètres qui gênent par rapport à sa démonstration, donc il va se limiter pour en faire, je dirais, une bête de laboratoire, et à partir de là, pour pouvoir démontrer, pour pouvoir dire des choses qu'il ne pourrait peut-être pas dire d'une autre façon. Un peu à la Voltaire, qui va parler des Juifs pour ne pas pouvoir, pour ne pas critiquer ouvertement trop l'Église. Donc il y a, je dirais, il faut faire attention de ne pas prendre au premier degré ce qu'il dit, mais de s'intéresser à la démonstration, et donc au message qu'il veut faire passer, qui est intéressant par ailleurs.
C'est génial.
Oui. Alors, vous allez dire, où est la question? La question n'est pas là. Effectivement, je m'interroge, et là je n'ai pas la réponse, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, par rapport à cette démonstration qui, finalement, préconise le dialogue, la recherche de l'altérité, pour se renforcer. J'ai tendance à partager ce point de vue, mais en fait, j'en suis pas du tout sûr. Et parfois, je me dis, je me trompe. Je m'explique. Si je prends le cas, dernièrement, il y avait un film sur les Amish, ou sur les Juifs de Mea Shearim, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes. Attention, je ne suis pas ultra-orthodoxe, vous voyez, à ma façon de m'habiter. Je me dis que, en termes de transmission, ils ont su préserver la transmission de siècle en siècle. Alors que ceux qui prônent l'altérité, le dialogue, ceux qui se sont trouvés un peu dans la situation, je dirais, de Spinoza et de tous ces maranes, qui ont dû se cacher et qui, après, ont cherché à justifier leur situation de n'être finalement ni totalement juif, ni totalement chrétien, et qui ont donc cherché par ce dialogue à s'affirmer, eh bien, je dirais que ces gens-là ont disparu. C'est-à-dire, il y a une dilution de ces gens qui sont ouverts au dialogue. Et donc, ma question est de dire finalement, qui a raison? Je n'ai pas la réponse.
Alors, moi, j'avais fait un truc, si vous permettez. Dans ce que tu viens de dire, il est vrai que dans une situation de dialogue, c'est-à-dire d'ouverture, c'est la problématique, c'est de garder son identité, sa singularité, et d'aller vers l'autre. Dans la société de Spinoza, c'est vrai qu'on est dans un endroit où il y a des maranes, des gens qui sont juifs, qui s'étaient convertis au judaïsme, de manière au christianisme, de manière forcée ou pas forcée. Ils arrivent aux Pays-Bas, ils sont chrétiens mais judaïsent, donc ils sont quand même dans la société néerlandaise. Et puis il va y avoir ceux qui reviennent au judaïsme. Donc il y a une affirmation, il faut s'affirmer dans la société, tout en étant soit moitié chrétien, moitié juif, on ne sait pas très bien. Donc il est vrai que quand on est dans une société ouverte et qu'on s'affirme, on se renforce. C'est vrai. Mais quand on est dans une, quand on est dans la société et que on se cache, on devient vulnérable. Et c'est dans une société comme celle-là, dans laquelle se trouve Spinoza, précisément. Donc lui, effectivement, il fait une démonstration, probablement, elle est géniale, de sa démonstration, mais il se sert de cette société mosaïque, comme vous avez dit, pour critiquer probablement ce qui se passe dans son monde à lui. Parce que dans le judaïsme, et il ne peut pas l'ignorer, dans le judaïsme, on dit « souviens-toi que tu as été étranger en Égypte ». Donc il y a une empathie vers l'étranger. Ce n'est pas une question de haine vers l'étranger. Vous avez parlé de se protéger soi-même. En effet, toute la problématique juive à travers toute l'histoire, c'est de se protéger. Se protéger de l'autre, pas parce que c'est l'autre, mais parce que l'autre, effectivement, nous persécute. L'autre nous met à l'écart. L'autre nous stigmatise. L'autre nous infériorise, ou même nous diabolise. Donc c'est toute une situation sur... On est au XVIIe siècle, il y a déjà des siècles de persécution derrière. Et ça, si nous ne l'ignore pas. Quelle est la question? Quelle est la question? La question, elle est effectivement, est-ce que votre connaissance de Spinoza vous permet de dire, est-ce que justement sa démonstration est une critique de sa société à ce moment-là? Est-ce qu'il se sert de cette démonstration-là, si vous ne faites rien finalement, pour critiquer sa société? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous n'avez pas dit?
En raison, il y a le jeune.
C'est absolument vrai. Alors peut-être pour préciser votre question pour ceux qui sont pas hyper familiers avec l'histoire hébraïque de la paix, Spinoza appartient, comme je vous disais, à une communauté juive ibérique qui ont fait l'objet de persécutions en Espagne et au Portugal, qui ont la plupart du temps fait l'objet de conversions forcées suite à des politiques extraordinairement violentes, qui se sont convertis, qu'on a appelé des conversos, qui étaient des chrétiens convertis, qui parfois, pas toujours, ont continué à pratiquer un judaïsme secret, et qui, parvenant dans des pays du nord de l'Europe et en Provence-Unis, dans certains cas, dans beaucoup de cas, ont retrouvé le judaïsme. Un judaïsme d'ailleurs que j'avais beaucoup perdu. Donc ça crée une forme de pratique très spécifique. Alors, moi, j'aime pas trop utiliser le terme de marat parce qu'il est quand même très insultant. Un marat, ça veut dire sport à la fin. Bon, je préfère parler d'anciens chrétiens ou de converseurs. Donc, en général, ce sont des gens qui vont se reconvertir au judaïsme, un judaïsme qu'ils ont quitté en grande partie et dont ils n'ont plus une connaissance d'ailleurs très précise, faute tout simplement du maintien d'une tradition rabbinique réelle, faute de possibilité. Et donc, ils vont produire une culture tout à fait spécifique et absolument fascinante, propre aux communautés juives ibériques de cette partie d'Europe. Pour répondre à votre question, vous avez absolument raison de noter que, d'une certaine manière, la conception spinoziste est un peu outrée, volontairement outrée. Je vous disais, le traité théologico-politique, dans lequel il traite vraiment cet exemple de manière très récurrente, c'est manifestement très fascinant. C'est un pamphlet. Il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte d'écriture. Un pamphlet, ce n'est pas un traité, même s'il s'appelle traité théologique, ce n'est pas un ouvrage qui est destiné à une publication à grande échelle. C'est un ouvrage très particulier qui s'inscrit dans un moment où la liberté de philosopher et la liberté religieuse en général, surtout la liberté de parole en matière de religion, commence à devenir extraordinairement limitée. Voilà, ce qui explique le caractère un peu outré. Vous avez absolument raison de noter que le judaïsme prévoit, fait mention de manière tout à fait continue de la nécessité aussi parce que tu as toi-même été un étranger sur ma terre, c'est moi-même un chapitre entier de ma thèse consacré à cette question. Donc vous avez tout à fait la volonté. On peut même noter d'ailleurs que la démocratie mosaïque est un des rares systèmes institutionnels d'ailleurs qui prévoit un statut légal pour l'étranger, qui est très peu fréquent en fait. Donc c'est vrai. Néanmoins, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que certes, le traitement est outré parce qu'il s'agit d'une question très particulière, qui est celle de la liberté d'expression et de la superstition en général, mais qui ne montre pas ça. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse dire que la position de Spinoza contre le judaïsme soit univoque. Il a manifestement une fascination pour les hébreux. J'entends le mosaïque. Grosso modo, Spinoza considère que la période merveilleuse de cet état, c'est grosso modo la théocratie mosaïque des juges, et qu'à partir des rois, c'est la démocratie. Une conception assez commune du système. Il est fasciné aussi par cet état qui lui sert de modèle pour qu'on puisse pas manquer d'éléments politiques pour lesquels il considère que ça fait vraiment exemple. Entre autres, moi je travaille beaucoup sur la question du patriotisme. Pour lui, manifestement, l'état hébreu est le modèle à partir duquel il va penser sa société. C'est le modèle de l'attachement du citoyen à l'état qu'il va falloir essayer de reproduire dans des états non théocratiques, parce que pour lui, il y a un vrai problème avec la théocratie, mais néanmoins, il y a des éléments structurels qui sont pour lui extraordinaires. Et de fait, Spinoza, c'est quelqu'un de très pragmatique. Hein. C'est pas un moralisateur du tout. Qu'est-ce qui fait la preuve qu'un état, sous certains aspects, est génial? C'est sa vérité. Spinoza le répète constamment, l'état hébreu a duré un temps incalculable compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles il s'est déployé. Donc manifestement, il y a quelque chose de génial dans ces institutions. Donc il ne s'agit pas non plus de... Voilà. Dernier point pour vous répondre, quand j'ai traité, et quand Spinoza traite de la haine des hébreux envers les étrangers, d'une certaine manière, il ne s'interroge pas pour savoir qui a commencé ça, si vous voulez. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de décortiquer les structures passionnelles qui créent le refus. Que les autres aient commencé à haïr, ça change tout. Tout simplement parce que c'est le même système, les autres me haïssent. Comme ils me haïssent et que je n'en vois pas la raison, je les hais à mon tour. Comme je les hais, ils redoublent en termes de haine. Comme ils redoublent en termes de haine, je redouble en termes de haine. Et tout le monde se replie et tout le monde va en compte. Donc, la faute originaire ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est les mécanismes de repli. Qu'est-ce qui fait du point de vue passionnel que des hommes vont s'engager dans un repli autarcique? D'une certaine manière, il parle de la théocratie mosaïque, mais il pourrait parler de quelqu'un d'autre. Par contre, c'est un modèle qu'il connaît très très bien. Objectivement, dans sa testament, il ne le connaît pas. Donc, voilà. Pour vous répondre à peu près, pour répondre à votre question, c'est beaucoup plus compliqué, qui est celle de la difficulté qu'il y a à tenir ensemble, maintenir son identité et rapport à la vie. Je vous avoue que c'est quelque chose, moi, qui me questionne beaucoup. Et pour être tout à fait honnête, c'est un point de ma thèse, je n'ai pas encore trouvé de solution. Non, mais vraiment. C'est quelque chose qui fascine Spinoza. Enfin, qui fascine. Moi, ça me fascine, donc j'en ai deux tellement souvenirs. Mais c'est quelque chose qui me presse. C'est-à-dire qu'il y a un petit passage, bref, qui, moi, en tout cas, me fascine, où il prend toujours l'exemple des drogues, parce que, voilà, c'est vraiment l'exemple à partir de... C'est l'oxygène à partir de quel il pense, hein, à partir de celui-là. Il dit, voilà, il y a tout un moment où il va penser les mécanismes à partir desquels une minorité se fond dans une majorité ou se maintient. Et il y a tout un moment où il va analyser deux exemples. Les Hébreux au Portugal et les Hébreux, la communauté juive au Portugal et la communauté juive en Espagne. Il se trouve qu'il y a un cas où, grosso modo, d'après ce qu'on a, c'est un peu plus discutable que le historique, mais ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Il y a un cas où, grosso modo, la communauté juive a mis des mêmes possibilités sociales, des mêmes possibilités de valorisation. Et d'ici, elle s'est totalement fondue dans la population, au point de disparaître comme peuple. Ça pose question. Hein. Il dit, voilà, dès lors qu'un groupe trouve vraiment les mêmes possibilités de réalisation sociale, le risque, il parle pas en termes de risque, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est déjà passé, c'est que ce groupe s'est totalement totalement fondu dans la communauté d'accueil au point de vue de la responsabilité. En revanche, dans l'autre situation, où ce peuple a fait l'objet, malgré les conversions, d'une politique de discrimination systématique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont maintenus très fortement comme peuple. Parce que, d'ici, rien ne maintient plus un peuple que l'armée. Indépendamment de l'expression un peu outrée, mais je veux dire qu'on peut l'entendre par elle, c'est fascinant quand même. Parce que ça veut dire que le moyen aussi de se maintenir dans l'adversité, c'est la haine quand même. Donc ça pose vraiment question. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de parvenir à un état où, de manière interne, une minorité a suffisamment de structures propres pour maintenir son identité tout en entretenant un commerce avec l'extérieur, et où la communauté d'accueil est suffisamment ouverte et tolérante pour ne pas engager de repli de la part de la communauté minoritaire, tout en maintenant suffisamment un respect d'identité pour qu'elle ne se fonde pas complètement. Et là, c'est vrai qu'il y a un jeu d'équilibre qui est quand même extrêmement délicat.
Mais je ne sais pas ça. Moi, mais les motivations qui ont favorisé l'émancipation des Juifs, justement, c'était de dire offrons-leur l'accès à tous les métiers, offrons-leur l'égalité, la citoyenneté, etc. Et vous verrez, ils s'assimileront. Enfin, pour aller vite. Hein. Donc c'était tout l'enjeu de ceux qui étaient favorables à l'émancipation. Ils prenaient la régénération du peuple juif, etc. etc. Donc c'était aussi dans l'idée de Napoléon. Hein. Donc on voit bien ce processus qui s'est vérifié surtout en Allemagne, en fait, avec les Lumières juives. On voit bien qu'il y a eu toute une vague d'assimilation, de conversion dans l'Allemagne et les Lumières. J'enchaîne sur une chose, c'est qu'on a toujours dit et pensé qu'il y avait une extraordinaire adaptabilité des Juifs dans les pays où ils étaient, quelles que soient les mesures discriminatoires dont ils souffraient. Mais il y avait une extraordinaire adaptabilité. Adaptabilité aussi, alors on peut aller loin, parce qu'il y avait cette loi la loi du pays et la loi, des choses qui faisaient loi dans le judaïsme et qui obligeaient à justement respecter les lois du pays, à être d'une certaine façon, selon les époques, patriotique. Et donc ce patriotisme-là aussi a maintenu cet équilibre, tant bien que mal, et cette singularité également.
C'est pas une question, pardon.
Non, mais merci de cette suggestion, parce qu'effectivement, il est possible qu'il a une fiche, en tout cas pour penser ce fragile équilibre entre maintien d'identité et ouverture à la diversité, qui est aussi essentiel pour le peuple même, en fait. C'est-à-dire que l'idée que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui, hein, c'est que pour un peuple, c'est dangereux de se couper de la télé. Parce que, j'ai passé là-dessus parce que ça aurait été très très long, mais ce que critique surtout Spinoza dans la rupture avec la TNT dans le cadre de la géographie hébraïque, c'est que se produit vraiment un appauvrissement de l'affectivité au bout d'un moment. Appauvrissement qui fait que de fait, après, elle n'est plus adaptable au monde. Quoi. Pour le peuple même, il est nécessaire de maintenir cet équilibre, ne serait-ce que pour ne pas mourir d'inadaptabilité. Quoi. Et effectivement, peut-être que il y a dans le respect patriotique, si on veut, une piste intéressante pour penser la possibilité et du maintien de son identité et d'un respect suffisant de la part de la communauté d'accueil pour ne pas chercher de l'assimilation. Tout l'objet de ce moment de ma tête.
Mais on a des figures qui l'illustrent, par exemple Maïmonide ou même Rachid. Il y a même Delson, il y a des figures comme ça qui l'illustrent. Bon, je ne sais pas, pardon, vous me connaissez la parole.
Mais je reprends la question, il y a...
Est-ce que vous me rappelez en
plus? Je ne suis pas sûr.
Moi, j'oublie, mais vous pouvez oublier aussi. Vous avez un droit à l'oublier de vos questions.
Est-ce que les dialogues, c'est pour exposer les points communs, pour exprimer les...
Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que le temps passe. Il y a d'autres questions?
Oui, il y en a d'autres.
Joël,
il y a entre l'identité et puis l'adaptabilité, est-ce que c'est pas une manière un petit peu trop figée de considérer ces deux vérités de moment? Est-ce qu'en fait, dans la vie, que ce soit d'un individu ou d'un peuple ou d'un État, ce n'est pas une succession de choses et c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est voilà. Parce que bibliquement parlant, par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'il y a des passages qui sont très universalistes et d'autres qui sont très, très, on va dire, identitaires. Donc, il me semble qu'il faut placer ça dans une dynamique historique. Mais voilà, je pose la question. Qu'en pensez-vous?
Du coup, ma question c'est, comme tout le monde ne se situe pas au même niveau d'adaptabilité, etc., comment on peut composer en tant qu'individu dans une collectivité qui n'est pas justement dans le même rapport?
Alors, votre première question, je vous remercie vraiment de la poser parce qu'elle engage des choses que j'avais prévues pour la deuxième partie de la conférence. Au fond, je sens. Je suis beaucoup trop ambitieuse. Je sens que ma seconde de tête a duré 10 heures. Je me demande derrière la question. En fait, on s'en fiche. La question, c'était est-ce que le dialogue doit viser la mise au jour des points communs ou l'exposition des divergences? D'une certaine manière, à court terme, à long terme, évidemment, que si elle peut viser l'accord collectif autour de principes raisonnables, pour ces raisonnables, c'est très grave, c'est important à rationaliser. Donc l'idée de Spinoza, c'est que dès lors qu'ils parlent de manière raisonnable, les hommes ont tendance à converger. Parce que la raison est commune à tous quand les passions sont individuelles. Donc quand les hommes parlent de manière passionnée, ils ont tendance à s'opposer parce que les passions sont propres à chacun. Quand ils parlent de manière raisonnable, ils ont tendance au bout d'un moment à converger. Donc l'idéal, c'est que les hommes fassent un usage le plus extensif possible de la raison, et ce faisant, qu'ils conviennent entre eux. Néanmoins, ce qui est génial, c'est que, à mon avis, pour Spinoza, la pratique du dialogue, elle est essentielle parce que c'est un instrument de renforcement de l'affectivité individuelle et collective. De la même manière que la privation du contact avec l'altérité appauvrit l'affectivité et rend inadaptable, le déploiement du dialogue, même quand il est contradictoire, est un instrument de renforcement de l'affectivité. Pourquoi? Parce que quand vous dialoguez avec les autres, même pour peu, alors c'est la condition que met Spinoza, on peut parler d'inventement, on peut parler de manière raisonnable et en respectant les lois de l'État et l'autorité souveraine. Ceci étant dit, quand on parle de manière raisonnable, pour peu même qu'on diverge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on se confronte à un très grand nombre d'opinions. Et en se confrontant à un très grand nombre d'opinions, dans le respect de l'exception, hein, ça. Mais quand on se confronte à un très grand nombre d'opinions, il se passe la même chose, c'est mon interprétation, mais je pense que ça tient à peu près, il se passe la même chose que quand on fait un très grand nombre d'expériences. C'est-à-dire qu'on s'habitue à la diversité. On complexifie sa structure interne. Et en complexifiant sa structure interne et en s'habituant à la diversité, on s'habitue à la mobilité. Donc on s'habitue à s'adapter. D'une certaine manière, c'est un peu dire que, à force d'être habitué au dialogue, et ben, ce que vous disent les gens ne vous heurte plus avec la même violence. Et moi j'en fais l'expérience tout le temps quand j'enseigne en terminale.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'à force du oui, on finit par le discours?
C'est précisément pourquoi il y a des limites au dialogue. Quand Spinoza défend la liberté de philosopher, c'est pas la liberté de parler de manière passionnelle chacun de son point. C'est vraiment, c'est une parole qui est normée. Toute parole n'est pas dialogue. Tout discours n'est pas dialogue. Sinon, il y a des règles très claires et même très limitantes dans l'expression. L'expression rationnelle, ça fait déjà une grosse limite, hein, mais ça veut dire quand même que 80% de nos échanges sont supprimés de la table. Que l'expression soit raisonnable, sinon rationnelle, et qu'elle se fasse dans le strict respect de l'autorité souveraine. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se faire même avec l'intention de vouloir nuire à l'autorité souveraine ou de la renverser. Enfin, vous pouvez vouloir renverser l'autorité au cas échéant, mais vous n'avez pas le droit de le faire avec une mauvaise intention. Ça limite encore plus, c'est-à-dire que là, 99% de nos échanges sont supprimés. Donc, il s'agit de défendre l'expression, mais dans des conditions très particulières, précisément pour que ce ne soit pas du bruit. Dès lors qu'elle se fait dans ces conditions, et quand bien même on ne serait pas d'accord, d'une certaine manière, on s'habitue à la diversité. Et en s'habituant à la diversité, on s'habitue, alors d'abord on s'habitue à raisonner soi-même, donc on se crée une opinion qui est, voire possiblement un jugement, qui n'est pas qu'une opinion. Mais en plus, on crée une sorte de mobilité intellectuelle qui fait qu'on est aussi apte à résister aux agressions de l'opinion extérieure. Les élèves qui ne sont pas habitués à la philosophie sont habitués à raisonner, hein, au sens fort du terme, la moindre opinion que vous exprimez, mais c'est de... Évidemment, à la fin de l'année, vous pouvez leur dire des trucs qui les heurtent en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant que personne A, B, C, D. Mais tout à l'heure, il n'y a plus pareil. Quoi. Il y a juste un exemple. Je ne suis pas d'accord parce que, là, quand je dis que mon année est faite, j'ai fait mon job. Et c'est bête, hein. Mais ça, à la fin de l'année, je suis capable de dire, moi, je pense ça. Pas des autres pensent, je traduis, je transmets l'opinion aussi. Et ça peut se faire au contact du dialogue avec l'extérieur. Voilà pour la réponse. Très vite, ensuite, identité intellectuelle. Ça ne vous parce qu'il n'y a pas des liens très intimes ici. Absolument. Toute la difficulté, effectivement, et c'est maintenant absolument conscient d'ailleurs, toute la difficulté, c'est de réussir à penser des choses qui sont quand même un peu massives, le rapport à l'autre, le rapport à un autre état, à une autre foi, à une autre religion, à une autre communauté. Et à la fois le fait que de fait, nous sommes toujours inscrits dans des groupes qui sont beaucoup plus labiles, en fait. Hein? On n'est jamais soi et les autres. On a toujours plein de choses en commun avec les autres et des appartenances en commun avec les autres. Pendant des ventes très simples, je suis venue en covoiturage avec une jeune fille qui était musulmane, donc on a parlé de ça pendant tout le truc. On avait manifestement en commun, comparé aux deux autres jeunes filles de la voiture, on avait déjà en commun notre croyance, quoi. Manifestement, les deux devant, on ne comprenait pas un truc à ce qu'on pouvait raconter. Voilà, certes, dans l'opposition entre deux, enfin, le rapport entre deux altérités religieuses, il y a encore ce point commun qu'on est croyant par rapport à d'autres. Donc évidemment que les appartenances, elles sont beaucoup plus englobantes et beaucoup plus diversifiées. Mais un, on est bien obligé de simplifier pour penser, au moins dans un premier temps. Et de deux, je pense quand même que ces catégories de l'identité de l'altérité, elles sont légitimes. Parce qu'elles permettent quand même de penser tout un ensemble de phénomènes. L'altérité religieuse, l'altérité étatique, l'autre pays, hein, l'autre région, l'autre foi, ou celui qui n'a pas de foi, c'est encore plus bon là. Ouais, donc, il est quand même, à mon avis, intéressant ce critère de l'altérité, même si effectivement il y a des gradations infiniment plus grandes, et aussi des gradations historiques, évidemment. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas tous le même degré d'adaptabilité pour composer ensemble? C'est une excellente question. Je vais vous répondre en Spinoza. L'idée pour Spinoza, c'est que, un, même quand ils sont déraisonnables, les hommes ont plus d'intérêt à vivre ensemble que séparément. Deux, tout simplement parce qu'on a besoin des autres. Spinoza, c'est un pragmatique, pas encore philosophique, mais c'est quelqu'un de très concret. Hein. On vit mieux, on s'habille plus facilement, on travaille plus facilement, on vit plus facilement avec les autres. Seul l'homme est assez piteux. Donc voilà, deuxième point, lorsqu'il tend à penser de manière raisonnable, les hommes conviennent. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de degrés, effectivement. L'idée, pour Spinoza, c'est qu'il y a une forme de contagion de la raison. Il ne s'agit pas de croire qu'il y a des hommes rationnels et le plan du point rationnel qui, de toute façon, ne pige rien au droit humain. Pas du tout. Pour Spinoza, tout le monde est une sorte de mix plus ou moins abouti sur personne, mais au bout, il y a le Christ. Donc une conception très particulière du Christ, mais le Christ. Ça veut dire personne d'autre. Hein, c'est une manière de dire que personne ne fait. L'idée, c'est que dès lors que se déploie un discours raisonnable, on autorise ce discours, encore faut-il qu'il soit autorisé, parce que si le dialogue est interdit, si l'expression des opinions est interdite, alors elles deviennent par nature conflictuelles, parce qu'alors elles deviennent nécessairement rivales hein, pour pouvoir s'exprimer. Dès lors qu'elles sont autorisées et qu'on limite l'expression à une expression raisonnable, il y a une forme de contagion progressive. Parce que plus les gens sont raisonnables, plus ils conviennent entre eux, plus ils conviennent entre eux, plus ils déploient la raison, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont intérêt à convenir. Il y a une forme de contamination progressive. Mais la condition de base, c'est que l'expression raisonnable soit autorisée. Tant que vous l'interdisez, tant qu'il n'y a qu'une expression légale dans la sphère publique, toute expression est la rivale de toutes les expressions, toutes les opinions sont en conflit pour avoir le droit de s'exprimer. C'est ce qui se passe pour Spinoza dans certains cas historiques. Mais moi, j'ajouterais personnellement, c'est ce qui se passe dans une conception extrêmement rigide de la laïcité. Une conception qui n'est pas d'ailleurs la conception française, normalement, mais une conception à laquelle moi j'ai été confrontée, qui est que la religion doit être absente de la sphère publique. Donc, un, pas au texte, qui est légalement invalide, et deux, qui est extraordinairement dangereux. Qu'est-ce qui se passe si vous interdisez l'expression de l'opinion religieuse, qui en plus n'est pas importante, de l'opinion humaine, dans la sphère publique, elles deviennent rivales. Tout simplement parce qu'elles sont en conflit pour avoir le droit d'exprimer. Si vous mettez des animaux dans une cage, c'est la même chose. Des opinions, c'est comme des petits animaux. C'est comme des hamsters. Si vous avez des hamsters, vous voyez ce qui se passe, quoi. Des hamsters mâles, effectivement, ça se passe. Enfin, oui. Sortez quelque chose, vous pouvez vous la raison, mais vous voyez. D'où l'importance d'autoriser l'expression quand elle est bornée à l'expression raisonnable dans la réalité du droit. C'est quand même quelque chose de plus large.